VOA Afrique, les infos. À Washington.
Eric Manirakiza, en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique. Ravi d'être avec vous pour vous présenter cette édition de 18h30, temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, du jeudi 13 février 2017. Voici d'abord le sommaire. Attaque meurtrière à Ménaka au Mali, découverte aujourd'hui des corps de 19 soldats disparus. Double attentat la nuit dernière dans l'extrême nord du Cameroun, 15 civils tués, 45 blessés au Sénégal. Arrestation de 30 personnes après des fuites au baccalauréat ayant entraîné l'annulation des preuves. Le président américain à Paris, Donald Trump, et le président français Emmanuel Macron ont tenu un point de presse conjoint. Restez branchés pour suivre les sports et votre actualité économique, bien sûr après le journal. Dans le nord-est du Mali, les corps de 19 soldats ont été retrouvés dans la région de Ménaka, pas loin du Niger. Ces militaires étaient portés disparus après une embuscade attribuée aux djihadistes. Le point à Ménaka avec notre correspondant sur place, Karsim Traoré.
Nous sommes à Ménaka, ces éléments étaient portés disparus. Ce matin à Ménaka, l'information a été donnée par la force Barkhane. Les corps des 19 militaires maliens ont été retrouvés, non le même du lieu de l'embuscade. Hier aussi, c'était la panique ici à Ménaka, car il y a des assaillants qui ont enlevé 12 4x4 d'une ONG humanitaire qui devrait venir leur servir dans le domaine de la santé, de l'éducation et de renforcement de la promotion de la femme. Donc, au Ménaka, aujourd'hui, c'est la quiétude, c'est la peur à cause de ces attaques répétées au niveau Imbarkawan de André Boukan, qui est à la lisière entre le Mali et le Niger. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les autorités maliennes sont en train de s'atteler pour mettre en place les forces d'armée malienne qui sont au nombre d'une cinquantaine ici et la gendarmerie qui compte 15 éléments au niveau de la ville de Ménaka. Depuis Ménaka, Kassim Traoré pour la Voix de l'Amérique.
Un nouvel attentat dans l'extrême nord du Cameroun a fait au moins 15 morts et 45 blessés à Ouaza. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Deux kamikazes ont actionné leur explosif dans un lieu très fréquenté où il y a des restaurants, cabines téléphoniques et buvettes. Ouaza, autrefois très fréquenté par des touristes pour son parc national, n'a-t-il plus à cause des attaques de Boko Haram. En 2014, 10 ouvriers chinois ont été enlevés avant d'être libérés après 5 mois de captivité.
Et au Nigeria, des assaillants non identifiés ont tué un soldat et blessé plusieurs autres. C'était dans le sud-ouest de Wari, la capitale de l'état du Delta. Ils ont également emporté des armes et des munitions. Les villageois se sentaient assiégés et craignaient des représailles de la part des militaires. En RDC, l'ONU a découvert 38 nouveaux sites possibles de fosses communes dans la région du Kasaï. Le Bureau des droits de l'homme a souligné qu'il est essentiel que l'enquête au sujet des violences au Kasaï identifie les responsables militaires et politiques. Et dans la foulée, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a déclaré qu'il est trop tôt pour tirer de telles conclusions.
On ne peut pas nier qu'il y ait 38 fosses communes. Je suis persuadé qu'il y en a même plus. Mais qui suis-je pour pouvoir dire avec certitude qu'il y a 38 fosses communes? Puisqu'il y a eu d'abord une déclaration en Gaza, à Kananga, il y a 20 fosses communes. Lorsque les experts enquêteurs de la justice militaire et de la MONUSCO descendent en Gaza, on trouve 3 corps, on trouve des fosses avec des armes dedans, mais pas de corps. On trouve des fosses avec du sang, dont il n'est pas encore établi que c'est du sang humain ou si c'est du sang d'animal. Tout ça doit être recherché par la police scientifique. Mais où sont les 17 autres? Nous voulons des faits. S'il y a 38 fosses communes, il faut qu'on voit les 38 fosses communes. Et qui sont responsables? Il n'y a que la justice qui peut déterminer la culpabilité. Qui a mené une enquête? Qui est compétent pour mener ces enquêtes-là? Laissons la justice travailler. Dès lors que nous avons accepté de nous faire assister par les meilleurs experts, par des légistes qui peuvent venir de partout au monde, mais qu'ils viennent, nous les attendons.
Lambert Mende au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Human Rights Watch accuse les forces de sécurité rwandaises d'avoir exécuté 37 petits délinquants entre juillet 2016 et mars 2017 dans l'ouest du pays. Le ministre rwandais de la Justice, Johnston Businge, a qualifié ce rapport de clairement mensonger, assurant que Human Rights Watch a été trompé. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition. En Centrafrique, la communauté catholique de San Egidio a annoncé la mise en place la semaine prochaine d'un comité de suivi pour compléter le fragile accord de paix paraphé le 19 juin à Rome. Ceci vise à impliquer l'Assemblée nationale dans ce processus. Au total, 13 groupes rebelles ou milices, principalement anti-Balaka ou ex-Séléka, et autorités prévoyant un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire. La conférence épiscopale de Centrafricaine a démenti avoir envoyé un émissaire à Rome. De même, un groupe armé anti-Balaka a expliqué que les signataires, en leur part, n'avaient pas eu d'autorisation préalable du groupe. Plusieurs arrestations au Sénégal après le scandale des fuites dans les épreuves du baccalauréat. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Abdelrahman Dia.
19 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet depuis la semaine dernière. 15 autres sont sur le point d'être déférées, selon une source proche de l'enquête. Ces arrestations ont été effectuées dans 4 villes, dont Dakar, la capitale. Selon la presse locale, des proviseurs de lycées et des élèves figurent parmi ces suspects. Les responsables syndicaux ont demandé l'annulation pure et simple de l'ensemble des épreuves du baccalauréat qui concernaient cette année près de 150 000 candidats. Ces fuites ont provoqué un vif débat dans le pays, notamment sur les réseaux sociaux, appelant à la démission du ministre de l'Enseignement supérieur et du directeur de l'Office du Bac, responsable de l'organisation de cet examen national. Le secteur de l'éducation au Sénégal est confronté depuis plusieurs années à des crises marquées par des grèves récurrentes des enseignants, des étudiants et des élèves.
Abdelrahman Dia. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a limogé 12 juges en grève depuis deux mois. Le ministre de l'Information qui a annoncé ces décisions n'a pas précisé le motif des licenciements. Plus de 270 juges réclamaient une augmentation de leur salaire, de meilleures conditions de travail ainsi que la démission du président de la Cour suprême qu'ils accusent de mal gérer le système judiciaire. Le Soudan s'engage à poursuivre ses efforts pour parvenir à une levée totale des sanctions américaines à son encontre. Khartoum espère que Washington reviendra sur sa récente décision de prolonger de 3 mois sa période de réflexion. En janvier, le président Barack Obama avait levé une partie des sanctions et instauré cette période de probatoire avant un possible levée totale et définitive de l'embargo vieux de 20 ans. Amnesty International a mis en garde aujourd'hui le Parlement tunisien contre un projet de loi portant protection des forces et de sécurité. Selon cette ONG, ce texte ouvre la voie aux abus avec l'usage non nécessaire de la force létale par la police. Eba Moraïef, directrice de recherche d'Amnesty International en Afrique du Nord, dénonce une étape dangereuse vers l'institutionnalisation de l'impunité dans le secteur sécuritaire. Arrestation d'un Chinois au Botswana pour trafic de peau d'âne. Il a été interpellé en possession de quelques 500 ânes maltraités. La peau de cet animal est au cœur d'un trafic juteux à destination de l'Asie. Les médecins traditionnels l'utilisent pour traiter notamment la ménopause, l'anémie ou les troubles sexuels. Son efficacité n'est cependant pas scientifiquement prouvée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump à Paris, le président américain est invité d'honneur des festivités du 14 juillet. La visite revêt une forte charge politique. Elle intervient quelques jours après un G20 houleux où les États-Unis ont réaffirmé leur volonté de faire cavalier seul, notamment sur la question du climat. N'est-ce pas, Salwa Jafari?
Air Force One a atterri ce matin à l'aéroport parisien d'Orly. Un programme chargé attend le président américain. Cérémonie militaire, visite du tombeau de Napoléon, entretien au palais de l'Élysée, dîner dans un grand restaurant de la Tour Eiffel et demain vendredi le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Cet après-midi, Emmanuel Macron a accueilli officiellement le président américain lors d'une cérémonie à l'Hôtel National des Invalides. Un peu plus tôt, la première dame Melania Trump s'est rendue à l'hôpital Necker où elle a rencontré des enfants malades. Trump, 71 ans, Macron, 39 ans, deux hommes que tout semble opposer vont tenter de trouver un terrain d'entente. La présidence française insiste sur les enjeux diplomatiques. Il s'agit, selon Macron, de ne pas rompre avec les États-Unis et de réaffirmer les liens historiques qui unissent les deux vieux alliés. Il sera aussi question de lutte antiterroriste, de collaboration sécuritaire. Les sujets de divergence, comme le climat, devraient également s'inviter durant leur tête-à-tête.
19e Conseil des ministres franco-allemands à Paris, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont décidé de mettre au point une nouvelle génération d'avions de combat avec une feuille de route commune. Ce dossier doit être défini d'ici à mi-2018. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, la Muniteco signée Dili Dico.
La Chine a fait don d'un patrouilleur d'une valeur de 2 milliards de francs CFA à la marine ivoirienne. Ce navire dernière génération de 27 mètres de longueur, équipé d'une grue, d'un chariot élévateur et d'autres matériels militaires, servira à lutter contre la piraterie. Selon le général Sékou Touré, chef d'état-major de l'armée ivoirienne, ce patrouilleur accroîtra les capacités de la flotte ivoirienne et lui permettra de sécuriser le golfe de Guinée. Au Nigeria, la ministre des Finances Kemi Adeosun s'oppose une fois de plus aux emprunts sur le marché international pour financer le budget. Elle a déclaré lors d'un forum à Abuja que le Nigeria ne peut plus se permettre d'emprunter à l'extérieur et qu'il faut trouver d'autres moyens pour mobiliser des fonds. Actuellement, le Nigeria enregistre un déficit de plus de 7 milliards de dollars et la dette globale nigériane s'élève désormais à 55 milliards de dollars. La Banque centrale du Zimbabwe envisage d'émettre plus de billets d'obligation. Le pays fait face à une pénurie accrue du dollar américain et au risque d'un retour à l'hyperinflation. En 2009, le Zimbabwe a abandonné sa propre monnaie pour le dollar américain afin de mettre fin à l'hyperinflation, à l'époque où le pain s'achetait avec des billets de 100 millions de dollars zimbabwéens.
Nous passons directement au sport ce soir. Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric.
On commence avec le football. La FIFA a levé la suspension du Soudan.
Tout à fait Eric. 7 jours après avoir annoncé la suspension du Soudan, en raison d'ingérence politique, la Fédération internationale de football association indique avoir levé la sanction suite à un retour à la normale à la Fédération soudanaise de football. Appuyé par les pouvoirs publics, le bureau sortant avait refusé de faire la passation du service à l'issue des élections qu'il a pourtant bien perdu en début juin, instaurant donc un blocage à la SFA. La suspension a conduit à la disqualification des clubs soudanais des compétitions interclubs africaines alors qu'Hilal Obied et Al Merrekh étaient en passe de se qualifier pour les quarts de finale en Coupe de la Confédération et en Ligue des Champions.
Et l'entraîneur d'Al Ahly d'Égypte a été sanctionné.
Oui, la commission de discipline de la CAF a reconnu Oussam Badri coupable d'avoir refusé de s'exprimer au micro de la chaîne Bein Sport lors du match contre le Wydad Athletic Club avant de récidiver avec ses joueurs après la rencontre face à Coton Sport du Cameroun. L'entraîneur d'Al Ahly d'Égypte écope de 10 000 dollars d'amende et d'un match de suspension avec sursis. Ces faits se rapportent à la détérioration des relations politiques entre l'Égypte et le Qatar à qui appartient la chaîne Bein Sport.
Le foot ghanéen et ivoirien endeuillé.
Effectivement, l'attaquant ivoirien Eugène Kofi Kwame, 29 ans, en vacances à Abidjan, s'est écroulé en plein match alors qu'il s'entraînait pour se détendre avec des amis sur un terrain vague. Kofi Kwame évoluait en Turquie depuis 2015. Ce décès intervient quelques semaines après celui de Cheikh Tiote, victime également d'un arrêt cardiaque à 30 ans le 5 juin dernier en Chine, au cours d'une séance d'entraînement avec son club. Autre décès, un membre du club ghanéen Ashanti Kotoko est mort dans l'accident d'un bus transportant joueurs et responsables. Le véhicule s'est encastré dans un camion stationné à environ 150 km d'Accra. 37 autres passagers ont été blessés. L'équipe se rendait à Kumasi où Ashanti Kotoko devait rencontrer dimanche Heart of Oak.
Oui, Yacouba, on se rappelle également du décès de Marc-Vivien Foué à Paris. C'était dans les mêmes conditions. Le Tour de France est relancé après la 12e étape.
Oui, l'Italien Fabio Aru a dépossédé le Britannique Chris Froome du maillot jaune à l'issue de cette première des deux journées dans les montagnes. Au classement général, Aru devance désormais Froome de 6 secondes et Bardet, vainqueur de l'étape du jour de 25 secondes, le Colombien Rigoberto Urán. Quatrième a vu son retard sur le maillot jaune passer de 35 à 55 suite à une pénalité de 20 secondes pour ravitaillement interdit.
On garde que Venus Williams retrouve de nouveau la finale du tournoi de Wimbledon. C'est la fin des sports.
VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Dans la ferveur de la campagne électorale sénégalaise, l'absent le plus présent est Khalifa Sall, le maire de Dakar. La tête de liste nationale de la coalition d'opposition Manco Taxaou au Sénégal est incarcéré à la prison de Rébus depuis le 7 mars pour détournement présumé de deniers publics. Une accusation qui porte sur près de 2 milliards de francs CFA. Malgré son absence, ses alliés collaborateurs, militants et sympathisants sont de plein pied dans la campagne. Un reportage signé Seydina Abagay.
Au quartier général de Khalifa Ababakar Sall, l'état-major s'organise pour un bon déroulement des activités. Ici, l'emprisonnement du leader n'affecte pas tellement le bon déroulement du travail, comme l'indique Moussa Taï, conseiller politique du maire de Dakar.
Nous sommes en train de battre campagne, sans Khalifa physiquement, mais avec lui de cœur et d'esprit. Parce que vous savez, une campagne électorale, ce n'est pas un homme, c'est une équipe. À ce niveau, il y a deux types de programmes. Il y a un programme national que nous avons défini, qui consiste à visiter tous les départements par tous les leaders. Il y a également un programme au niveau départemental. Chaque département s'organise et crée un programme qu'il applique au niveau communal et départemental.
Loin de ces cadres théoriques, la campagne sur le terrain est tout autre. Des centaines de jeunes de la coalition parcourent chaque jour les artères de la capitale sénégalaise pour dénoncer l'emprisonnement de leur leader. Bassirou Sam, responsable national des jeunes socialistes, porte leur voix.
Cette mobilisation est la conséquence d'une initiative lancée par des jeunes politiques et apolitiques qui ont tous le même objectif, se battre pour la libération de Khalifa Ababakar Sall, pour sensibiliser les gens, pour les mobiliser afin que notre leader puisse être libéré le plus rapidement possible.
Dans la banlieue dakaroise minée par les inondations, l'ancien ministre Malick Gakou pionne le régime en place. Pour lui, le gouvernement a laissé ses populations dans la détresse.
Cette situation est inacceptable et à la fois inadmissible, mais c'est la meilleure preuve, encore une fois, que le gouvernement du président Macky Sall ne s'occupe pas du bien-être des populations de la banlieue. Et c'est aussi une manière de dire au président Macky Sall que les populations lui ont tourné le dos et que le 30 juillet prochain, les populations vont démontrer avec force et pertinence qu'elles ont choisi la coalition Manco Taxaw Sénégal en qui elles ont espoir pour résoudre leur problème de bien-être social, mais également résoudre la question lancinante des inondations qui gangrènent et qui gangrènent leur vie tous les jours.
Les membres de la coalition Manco Taxaw Sénégal rêvent de voir leur leader participer au dernier jour de la campagne. En effet, la Cour suprême doit se prononcer ce 20 juillet sur le pourvoi en cassation du maire de Dakar. En cas de verdict favorable, Khalifa Sall pourra battre campagne durant la dernière semaine. Au cas échéant, il vivra les élections législatives du 30 juillet depuis sa cellule de la prison de Rebus. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Et dans une lettre ouverte adressée à Joseph Kabila, la société civile du Sud Kivu demande au président congolais de libérer le processus électoral en vue de la tenue des élections présidentielles et législatives au plus tard le 31 décembre 2017, comme convenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Vendredi dernier, le président de la commission électorale, Corneille Nanga, a déclaré que l'organisation des élections en RDC ne sera pas possible avant la fin de cette année. Le reportage d'Ernest Mouhérou à Bukavu.
Selon Patient Bachombe, président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, différentes organisations qui composent cette structure citoyenne ont constaté avec regret que non seulement d'un côté le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas encore mis en place et de l'autre la CENI n'a toujours pas publié un calendrier électoral. Mais chose étonnante, l'idée d'un référendum est de plus en plus évoquée sous forme de provocation vis-à-vis du peuple par certains acteurs politiques. Patient Bachombe.
Nous avons constaté que la situation politique est tellement fragile qu'il faudrait rapidement que les élections se tiennent selon le vœu des Congolais et non pas à traîner les pas, penser à des référendums. Et c'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie tous ces politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, qui veulent nous amener à la période d'avoir la démocratie que nous ne pouvons pas tolérer. Et donc nous demandons au chef de l'État vraiment de libérer les processus électoraux en vue de l'organisation des élections d'ici la fin de cette année 2017.
Amos Bissimwa, membre du mouvement citoyen Le Réveil des Indignés, réclame l'alternance à tous les échelons du pouvoir à mandat législatif.
Le Réveil des Indignés lance un appel pathétique à la population. Nous réclamons l'alternance. On a eu à nous rouler dans la boue au mois de décembre l'année passée. Vouloir encore reporter les élections au-delà du 31 décembre de cette année, c'est engager une guerre avec le peuple congolais.
De passage à Bukavu, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, a déclaré le 12 juillet dans une conférence de presse que les Nations Unies aussi tiennent au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre pour les élections en RDC en 2017. Maman Sidikou.
Je voudrais encourager les leaders politiques du Sud Kivu, à l'instar du reste du pays, à s'engager activement dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 afin que le pays puisse aller vers des élections transparentes conformément à l'accord du 31 décembre, donc d'ici la fin de l'année. Nous pensons que le respect de cette composante de l'accord du 31 décembre aidera à apaiser les tensions, à ramener les esprits ensemble.
Signalons que c'est depuis le 30 juin que les bureaux des coordinations de la société civile du Sud Kivu ont entamé les consultations de ces organisations membres pour une position commune au regard de ce qu'ils qualifient de marasme social, économique et sécuritaire en province du Sud Kivu. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
À la veille du début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 4 août au Rwanda, Human Rights Watch dénonce des violations des droits de l'homme. Dans l'ouest du Rwanda, les forces de sécurité auraient exécuté au moins 37 délinquants, selon Human Rights Watch. Le ministre rwandais de la Justice, Johnston Businge, a qualifié ce rapport de clairement mensonger. Claire Mangibour a joint la directrice Afrique centrale de Human Rights Watch, Ida Soe.
Nous avons parlé avec 119 témoins, membres des familles et amis des victimes, et aussi des responsables gouvernementaux et autres personnes qui ont des informations sur ces exécutions sommaires et des disparitions forcées que nous avons documentées. Et toute cette recherche a été menée au Rwanda depuis janvier de cette année. Donc on a parlé avec plusieurs témoins qui nous ont confirmé ce qui s'est passé avec chaque victime pour les cas que nous avons documentés.
C'est des cas parfois de simples voleurs de bananes. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques histoires que vous avez recueillies?
Les victimes étaient accusées d'avoir fait des très petites choses comme d'avoir volé des bananes ou une vache d'une moto, d'avoir utilisé des filets de pêche illégaux dans le lac Kivu ou d'avoir donc donner au trafic de marijuana, d'avoir traversé la frontière depuis la République démocratique du Congo, pas sur la grande barrière. Et donc pour toutes ces choses, sans aucune procédure régulière ou effort d'établir leur culpabilité, ces victimes ont été arrêtées et puis exécutées par des militaires ou d'autres forces de sécurité rwandaises. Il y a plusieurs exemples où des gens ont été ciblés par les autorités pour être accusés d'avoir volé ou faire autre chose et puis exécutés. Et dans la plupart des cas que nous avons documentés, les autorités utilisaient les exécutions extrajudiciaires en guise d'avertissement. Donc, les autorités ont expliqué aux habitants après, souvent lors de réunions publiques, que la personne suspectée de petite délinquance avait été tuée et que tous les autres voleurs et autres criminels de la région seraient également arrêtés et exécutés.
Comment vous expliquez cette situation? Pourquoi finalement les autorités utilisent plus souvent ces exécutions sommaires?
Donc il semble que les meurtres et ces exécutions qu'on a documentées font partie d'une stratégie plus vaste pour répandre la peur, faire respecter l'ordre et dissuader de toute résistance aux ordres ou aux politiques du gouvernement. Donc c'est un effort des autorités à montrer à la population qu'il faut absolument obéir à ce que nous disons, sinon vous aurez des graves problèmes avec nous.
Ida Sea, directrice Afrique centrale de Human Rights Watch.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
En 2016, au moins 200 personnes se sont fait assassiner alors qu'elles protégeaient leurs terres, leurs forêts ou leurs rivières. Selon Global Witness, l'Amérique latine reste la région la plus dangereuse en la matière, mais l'Afrique n'est pas épargnée. De nombreux gardes de parc ont été assassinés sur le continent, dont 9 en RDC. Morgane Guiriec a joint Nikèze Moulumbi de l'organisation Croissance Saine et Environnement au Gabon.
La RDC, d'abord, elle est victime de ses ressources naturelles. La guerre en RDC est d'abord en partie de sa capacité à avoir toutes ses ressources naturelles. Et donc, chaque puissance occidentale ou même au niveau national se bat pour avoir sa part du marché. Et à partir de cet instant, les gardes sont à la fois menacés, mais par les braconniers aussi.
Alors, bien souvent, mis en cause la brutalité des forces de l'ordre.
L'Afrique, et particulièrement l'Afrique centrale, pêche encore parce qu'il y a la démesure, les interventions militaires ou même policières sur les altermondialistes ou les défenseurs de l'environnement ou les syndicalistes sont surproportionnés. Toute dénonciation peut toujours apporter des risques.
Parmi les autres prédateurs, on a les sociétés minières, forestières, agricoles.
Oui, bien sûr que oui. Beaucoup d'entreprises font attention pour ne pas gêner leur marque. La corruption éveille toutes ces menaces. Et c'est pour ça que les processus tels que les initiatives des industries extractives permettent aujourd'hui aux entreprises de publier ce qu'elles dépensent ou ce qu'elles peuvent recevoir de la part de l'État. Et donc, à la fois, il faut lier la question de la corruption autour des entreprises multinationales et qui vont donc affaiblir par leur position financière et par leur rente, qui vont donc affaiblir nos administrations.
Un des problèmes soulevés, c'est la criminalisation des militants.
Des fois, les entreprises vont aussi corrompre la justice. Alors, vous savez, un industriel sait ce qu'il perd quand une campagne est lancée contre elle. Donc, l'impunité devait être une préoccupation des autorités en Afrique centrale, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Nikèze Moulumbi de l'organisation Croissance Saine et Environnement au Gabon.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Lumami, assisté par Tian Wang à la console. À la présentation, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.